Philosophie de la matière par le père Philippe Arimon, 12 janvier 1990, deuxième cours.
Forêt. C'est extrinsèque à ce qu'on t'a dit tout à l'heure, mais j'y réponds rapidement, parce qu'on a le droit de poser des questions. Les éléments. Mais on retourne en arrière. C'est très bien, il faut tout le temps retourner en arrière, donc mettez ça sur quelque chose de tout à fait différent, hein. Parce que autrement vous allez faire une bouillabaisse. Les éléments, comment sont-ils déterminés? Par eux-mêmes. L'eau est déterminée par lui-même, à partir des qualités sensibles, les qualités sensibles propres du toucher. Ça, c'est, nous les connaissons comme ça, notre manière de connaître les éléments, notre manière de connaître la nature et la nature elle-même. Donc toujours bien distinguer les deux. À partir des qualités sensibles, nous connaissons les éléments, leur détermination. Alors il y a à partir des mouvements, à partir des qualités sensibles, c'est vrai, des sensibles propres du toucher. Quel rapport avec le corps humain? Ben, le corps humain implique des éléments. Il y a en vous de l'eau, il y a en vous de la terre, il y a en vous du feu. Quelquefois, le feu est très éteint. Il y a en vous du brouillard. Donc, c'est tous ces éléments. Le corps humain est fait d'éléments. Avec un équilibre très particulier. Normalement, vous avez un peu plus de feu que la vache. La vache est moins feu que le corps humain. Je crois. Du moins, selon le corps humain normal. Quand vous dites à quelqu'un espèce de vache, hein, vous considérez que, justement, il n'y a pas beaucoup de feu en lui. Peut-on encore aujourd'hui parler des éléments? Mais on l'avait vu. Laisse tomber. Parce que nous avions vu le point de vue duquel j'avais dit que la chimie, on pouvait confronter les deux. Et dans cette confrontation, on maintient les éléments. Ça a été vu au cours. Sont-ils réels ou symboliques? Ils sont réels. Et à partir de là, on peut avoir une connaissance symbolique. Je reviens. Tout ce qui est mu, tout étant mu, est nécessairement mu par quelque chose. Je dis que c'est un principe. Je ne dis pas que c'est une cause. C'est le grand principe de toute la philosophie de nature, analogue à l'axiome de contradiction. Et je crois que toutes les difficultés soulevées tout à l'heure proviennent de cela. La phusis est saisie comme un principe de la réalité et cause. La phusis est cause. Alors que tout ce qui est mu par un autre n'est pas une cause, mais un principe d'intelligibilité. Un axiome, si vous aimez mieux. C'est quelque chose que vous découvrez directement. Vous ne pouvez pas le prouver. Mais en analysant ce qui est mu, en analysant tout étant mu, vous voyez que nécessairement il est mu par un autre. Parce que l'acte qui est impliqué dans ce mouvement, entelekeia, n'oubliez pas, quand vous définissez, du moins quand vous essayez de préciser ce que c'est que le mouvement, vous dites entelekeia, vous ne dites pas energeia. Donc vous exprimez une réalité qui est en mouvement, en acte, orienté, et qui n'est pas encore l'acte, et qui assume une réalité qui est mue, une réalité qui est en puissance. Donc comprenez bien que tout ce qui est mu est nécessairement mu par quelque chose, doit se comprendre comme un principe d'intelligibilité qui est fondé dans la réalité et qui est un principe d'intelligibilité pour en avoir l'évidence. Comme d'un principe, il faut connaître ce que c'est que la nature, il faut connaître ce que c'est que le mouvement, il faut connaître donc la distinction entre l'entelekeia et ce qui est en puissance. Donc tout ça est impliqué, mais c'est un axiome, vous ne pouvez pas le prouver par autre chose. Alors c'est pas étonnant que c'est là où l'affrontement avec la pensée moderne est le plus fort, puisque d'une certaine manière ça implique, impose tout ce qui est mu. Ce qui est mu n'est pas une nature, c'est une réalité en état de mouvement. Donc c'est un pot, c'est une réalité existante, tout existant en mouvement, ému par un autre. Et ça, je crois que c'est tout ce qui est ému, ému par un autre. La démonstration. Vous avez donc là, vous voyez bien que ça implique non pas un principe philosophique au niveau métaphysique, au niveau de la philosophie de la nature, mais c'est un principe d'intelligibilité fondé dans la réalité et qui part de l'expérience. Ce qui est mu, bien, ce qui est mu implique la dépendance d'un autre. Ben, tout simplement, c'est ça qu'il faut comprendre. Tout ce qui est mu est un être dépendant. Ça ne veut pas dire autre chose que ça. Tout ce qui est mu est un être dépendant d'un autre, hypotinos. En tant qu'il est mu, il n'est pas mu par lui-même. Ça, il faut en avoir l'intelligibilité propre. Il faut voir que c'est évident. Si c'est pas évident pour vous, cherchez pourquoi. Alors à ce moment-là, vous verrez tous les vieux restes scientifiques qui sont dans votre cerveau, dans votre mémoire. Et alors vous verrez bien que tout ça doit tomber devant ce que nous avions dit précédemment sur qu'est-ce que c'est que le mouvement, l'entelekeia de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance. Alors ça doit pacifier vos...
Quand on dit que le vivant se meut, c'est un non-sens de dire qu'il est mu par lui-même.
C'est...
Est-ce que ça n'a pas de sens de dire qu'il est mu par lui-même?
Il est mu par lui-même, il se meut. Donc il n'est pas mu par lui-même, il se meut. En tant qu'il se meut, il n'est pas mu. Le vivant est complexe. Vous avez votre âme et votre corps. Est-ce que votre corps se meut ou est-ce qu'il est mu?
Il est mu.
Ah. Et votre âme?
Elle se meut.
Elle se meut. Donc vous avez bien répondu. Donc voyez, vous ne pouvez pas dire que ce qui se meut est mu. Il est mu par accidence. Le vivant se meut. Et en lui, il y a quelque chose qui est mu, son corps. C'est pour ça que quand le corps est trop lourd, hein, et quand l'âme est fragile, on a envie de s'asseoir. Les chanoines ont toujours envie de s'asseoir. Parce que leur corps est trop lourd. Ils se meut. Être debout, se mouvoir, toujours prêt. Je crois que c'est ça qu'il faut bien, vous voyez, c'est que il faut bien distinguer la nature, la foussise qui est principe et cause. Et tout ce qui est mu par un autre, on est devant un état de fait. Une réalité qui existe, qui n'est pas un principe. Une réalité qui existe. Et on explique son état particulier. L'état de celui qui émeut n'est jamais premier. Tout simplement. L'état de ce qui émeut n'est jamais premier. Là, vous le comprenez négativement. Et vous comprenez ça tout de suite. L'état de ce qui émeut n'est jamais premier. Une réalité qui émeut n'est jamais première. Elle est toujours le résultat d'un autre. Parce qu'elle est mue. Ça va très loin, ça. À piger. Comme vous diriez, tout ce qui est relatif n'est jamais premier. Tout ce qui est mu est relatif. Il est relatif à un autre. Donc il n'est pas premier. Il ne peut pas être premier. Ce serait contradictoire. Au plan philosophique. Au niveau de son existence même. Tout ce qui est mu. Donc il faut bien saisir ça comme l'axiome de toute la philosophie de la nature. Toute la philosophie de la nature est commandée au niveau philosophique par cet axiome, tout ce qui est mu par un autre. Ça vous comprenez, j'espère. Et s'il y a des objections dans votre tête, notez-les. C'est très très important. Faut jamais laisser une objection à l'état d'objection. Faut toujours expliciter cette objection et y répondre. Autrement, on n'avance pas. On a des a priori qui grossissent. Et au bout d'un certain temps, on ne comprend plus rien du tout. C'est pour ça qu'on n'avance pas en philosophie. C'est parce qu'on n'explicite pas les objections. On n'est pas assez lucide. Faut être très lucide. Hein. La philosophie, c'est de vous rendre lucide au point de vue connaissance. Faire la distinction entre les évidences et les non-évidences. Faire la distinction de ce que vous recevez d'un autre et de ce que vous recevez par vous-même. Oui, ce que vous connaissez par vous-même, vous le connaissez par vous-même. Vous n'êtes pas mu. Vous vous mouvez vous-même. Ce que vous recevez d'un autre, vous êtes mu. Quand vous recevez quelque chose par mode d'enseignement, vous êtes mu. Vous recevez par un autre, par celui qui enseigne. Et celui qui enseigne est Tokinoun. Il est le mouvement. Il est la source du mouvement. Tandis qu'au contraire, lorsque vous découvrez quelque chose par vous-même, c'est pour ça que vous avez bien plus de joie. Vous avez une grande joie quand subitement vous devenez intelligent et que vous découvrez quelque chose par vous-même. Et que vous en avez l'initiative. Vous dites, tiens, je suis intelligent. Je ne savais pas. Parce que vous l'avez découvert par vous-même. Tandis que quand vous recevez d'un autre, vous n'avez pas l'expérience d'être intelligent. Vous avez l'expérience d'être mu. C'est pas très drôle. Vous savez, il faut beaucoup d'humilité pour accepter un maître. Alors qu'il ne faut aucune humilité pour accepter qu'on est intelligent. Qu'on se meut soi-même. Et je ne dis pas que c'est l'orgueil, c'est tout simplement la réalité. Je suis capable de découvrir quelque chose par moi-même. C'est ce qu'on appelle l'intuition. L'intuition, c'est découvrir par soi-même un rapport. Ah, oh, j'avais jamais vu ça. Tiens, subitement, je deviens intelligent. J'avais pas vu ça. Alors à ce moment-là, vous découvrez quelque chose. Vous n'êtes pas mu. Au point de vue de l'intelligence, vous découvrez. Oui, transposez tout de suite. Alors vous comprenez mieux. Le monde physique est un monde qui implique d'être mu. Toutes les réalités physiques sont mues.
de la critique de partie réflexive, est-ce que ce principe aussi
forcément
question critique
la question critique de saisir que toute la philosophie de la nature dépend de tout ce qui est mu par un autre, et ça relève sur quoi la réalité même du mouvement. Tout ce qui est physique est mu, tout ce qui est physique est en mouvement. Donc tout ce qui est physique dépend d'un autre. C'est pour ça que le physique n'est jamais premier. Au niveau philosophique, hein, puisque la philosophie implique le jugement d'existence. Oui. Et c'est ça que Aristote veut nous montrer dans le livre 7 et 8. C'est que la réalité physique nécessairement demande d'être dépassée par quelque chose qui n'est plus physique. Un monde physique qui serait la seule réalité serait contradictoire. C'est ça qu'on va regarder avec le livre 7 et le livre 8. C'est pour ça que c'est important de comprendre la signification de ce point de départ. Tout ce qui est mu par un autre. Et c'est comme ça que ça commence. Cet homme ne commence pas les voies d'accès par tout ce qui est mu. Allez, tout de suite. Par la somme. Si nous constatons qu'il y a des réalités mues, or tout ce qui est mu par un autre. Donc. C'est ça qui est très important à voir, que cet homme commence par un jugement d'existence. Aristote, livre 7, ne commence pas par un jugement d'existence, mais par un axiome. Parce que son but, c'est de montrer que le monde physique comme tel ne peut pas être premier. Il faut un au-delà du monde physique. Vous voyez, tandis qu'en métaphysique, c'est pas du tout ça, c'est l'acte pur. C'est là où on voit tout de suite le génie tout à fait différent d'Aristote, philosophe de la nature, et le génie d'Aristote, philosophie première. Dans la philosophie de la nature, l'être n'est pas mis explicitement devant. C'est ce qui est mu qui est mis devant. Alors, l'être est présent en acte, c'est évident. Ce qui est mu applique l'être. Mais c'est pas explicité. C'est ce qui est mu. Maintenant, puisque tout mu est nécessairement mu par quelque chose, panto kinomenon, ananke kinestai hypotinos, puisque tout ce qui est mu nécessairement par un autre, soit une chose mue du mouvement local, par un autre qui est mu, soit à son tour le moteur mu par une autre chose mu, et celle-là par un autre, et toujours ainsi. Nécessairement, il y a une chose qui est premier moteur, et l'on ne peut aller à l'infini. Voilà, tout est là, et c'est dès le point de départ, verset 14. Toute la réalité du livre qui va être explicitée plus ou moins, mais tout est là. Une fois qu'on a compris que tout ce qui est mu par un autre, vous pouvez tout de suite affirmer il y a un premier au-delà de ce qui est mu. Et là, vous avez toute la réalité du livre 7. Vous voyez, c'est curieux, c'est d'aller dès le point de départ. Hein. Alors, vous pouvez dire tout de suite, affirmer que parmi les réalités existantes, il n'y a que le monde physique. Le monde qui est mu, c'est contradictoire. Donc, vous ne pouvez pas l'affirmer. Le monde physique est un appel vers un au-delà. On dirait en langage moderne. gémissement du monde physique. Le monde physique gémit. Il appelle un autre qui n'est pas physique. Parce que, vous voyez, c'est ça qui est très joli dans la perspective d'Aristote. Tout ce qui est mu par un autre, cet autre, il est mu. Donc il est mu aussi par un autre. Cet autre, il est mu aussi par un autre. Et si cet autre est mu, il est toujours mu par un autre. Or, on ne peut pas aller à l'infini. Voilà le second principe. Donc, tout le livre 7 d'Aristote repose sur deux principes d'intelligibilité. Tout ce qui est mu par un autre, on ne peut pas remonter à l'infini. Nécessairement, il y a une chose qui est premier moteur, et l'on ne peut pas aller à l'infini. Alors, le premier moteur, comment traduire ça? Je vous le laisse. Je vous demande à bien chercher. Le kénon, ceux qui sont intelligents, le kénon. Le proton. Le tau-proton kénon. Le premier moteur. Alors, le kénon. Faut voir comment il faut le traduire. Dans notre langage moderne. Et moteur, ça va pas bien. Pensez tout de suite à un moteur. C'est tellement habitué. Moteur, c'est fatigué. Il est fatigué de ce terme, moteur. Depuis qu'il y a eu des moteurs automobiles. Parce qu'ils sont automobiles. Vous voyez, le grec qui se fout jusque-là. Il est mobile par lui-même, c'est ça que ça veut dire. Vous oubliez quand vous êtes dans une automobile que vous êtes là, en face d'une chose très étonnante. Vous êtes un moteur qui est moteur par lui-même, mais au niveau artificiel, et non pas au niveau naturel. Un chameau se meut, et ce n'est pas automobile. C'est d'autres choses. Il se meut selon son rythme à lui. Tandis que l'automobile n'a pas de rythme propre. C'est artificiel. Alors le mécanicien qui connaît très bien tel moteur dira, tiens, il ne va pas tout à fait normalement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut avoir l'oreille par rapport à l'automobile. Comme on a l'oreille par rapport au rythme. Alors vous voyez, cet autre principe, ça c'est très important parce que tout est là. On ne peut pas remonter alors à l'infini. C'est le second principe. Donc il y a deux principes qui commandent tout ce livre 7. Et le livre 8, tout ce qui est mu par un autre, on ne peut pas remonter à l'infini, dans l'ordre de l'autre. Or, si vous dites que l'autre, c'est quelque chose qui est mu, il est mu par un autre, donc il n'est pas premier. Et vous ne pouvez pas remonter à l'infini, dans cet ordre-là. On va voir ça. En effet, supposons qu'il n'y ait pas ainsi, qu'il n'en soit pas ainsi, et que la série devienne infinie. Donc supposons, par notre hypothèse, que la série est Ace à Bayron. Ace à Bayron, vers l'infini. Remontez, 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 remontez infini. Vous voyez, même les savants aujourd'hui sont obligés de remonter à quelque chose. Big Bang. Premier moteur immobile. Il y a quelque chose qui est au-dessus de la série. La série ne peut pas être infinie. Il y a quelque chose au-dessus. Donc, on ne peut pas. Là, on va le montrer. On va montrer que c'est impossible de prétendre monter à l'infini. C'est aussi une des choses. chose que le père Dubarle souligne en cet article. Je pourrais vous en donner la référence pour ceux qui s'intéressent par rapport au rapport entre la science et la philosophie, et surtout la philosophie d'Aristote. Parce que c'est un des gros problèmes que le père Dubarle, devant lequel il se heurtait tout le temps dans le monde scientifique. Dans le monde scientifique, on peut remonter à l'infini. Et dans le monde philosophique, on ne peut pas remonter à l'infini. C'est aussi un point très important à bien saisir. Dans le monde scientifique, on peut remonter à l'infini. Et saint Thomas le reconnaît. Sans connaître la science moderne, il l'a reconnu d'avance. Et prend l'exemple très simple. Vous enfoncez un clou. Vous enfoncez un clou avec un marteau. Le marteau se fêle parce que le clou est plus dur que le marteau. C'est ce qui peut arriver. Vous avez un marteau de bois, vous avez un clou d'acier. Vous tapez dessus, marteau se fêle. Vous en prenez un autre, il se fêle encore. Vous en prenez un autre, il se fêle encore. Vous en prenez un autre, vous pouvez remonter à l'infini dans l'ordre des marteaux. C'est pas étonnant. Dans l'ordre des marteaux, vous pouvez remonter à l'infini. Berchtesgadens. Parce que, en réalité, vous voyez, le clou est mu par un autre, par le marteau. C'est quand vous voyez un clou qui s'enfonce. Comment ce clou s'enfonce-t-il? Il est mu. Mais là, ce n'est pas un mouvement naturel, c'est un mouvement artificiel, ça c'est sûr. Mais c'est un mouvement artificiel qui fait que vous voyez comment vous pouvez vous servir d'un marteau, d'un autre marteau, d'un autre marteau, et à l'infini. Qu'est-ce qui dira que vous arrivez à enfoncer le clou? Vous avez déjà pris 100 marteaux. Il y aura quelqu'un qui passera, mais tu es une espèce d'imbécile. Tu vois pas que tu vas aller à l'infini. Tu vois pas que le clou est plus dur que le marteau de bois. Et qu'il faut quelque chose de plus dur pour enfoncer le clou. Pourquoi? Parce qu'il faut quelque chose qui soit plus en acte que ce qui est en puissance. Et c'est pour ça que vous pouvez pas enfoncer le clou. Alors vous pouvez aller à l'infini dans l'ordre des marteaux. C'est pas étonnant. Il y en a des quantités de marteaux. Donc vous pouvez aller à l'infini. Ils sont au-delà du nombre. Tandis que vous ne pouvez pas aller à l'infini dans l'ordre essentiel du abalio, de ce qui est en puissance par rapport à ce qui est en acte. Ça, c'est une distinction très importante à faire parce que c'est la distinction entre la science et la philosophie. On ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre philosophique des liens entre la cause et l'effet. Tandis que vous pouvez remonter à l'infini dans l'ordre scientifique au niveau de la loi. C'est pour ça que pour le scientifique, c'est si difficile d'arriver à ce dépassement, dépasser la cause Berchtesgadens pour découvrir la cause percée. Au niveau de la loi, vous ne pouvez pas distinguer entre les deux, puisque la loi confond les principes. Moi, la loi ne distingue pas, disons ça, ne distingue pas la condition sine qua non du principe propre. A présuppose B. Pour que A apparaisse, il faut B. Est-ce que c'est une condition sine qua non ou est-ce que c'est un principe propre? Au niveau purement descriptif, vous ne pouvez pas le savoir. J'ai constaté que chaque fois qu'il y avait A, il y avait B. Et que chaque fois qu'il y avait A, il y avait un B antérieur. J'ai constaté ça. Chaque fois que vous avez rencontré un frère, au bout de deux pas, vous en rencontrez un autre. Tiens, c'est curieux. Et vous avez vu ça 100 fois. Au bout d'un certain temps, vous dites, mais chaque fois que je rencontre un frère, je rencontre l'autre. Et donc, il dépend de l'autre. Parce que si l'autre disparaissait, l'autre, il serait plus là. Pour des tas de raisons. Raisons affectives, du cœur. Et ce n'est pas des raisons propres, c'est des raisons affectives. chaque fois que j'ai rencontré celui-là, j'ai rencontré l'autre après, derrière le mur, mais il était là présent. Et donc, il y a un lien. Est-ce que c'est un lien de causalité propre ou un lien de condition sine qua non? Il a la file à la patte. Condition sine qua non d'avoir un file à la patte. C'est pas une causalité. Mais, et je ne peux pas distinguer les deux au niveau purement descriptif. Je constate le lien de nécessité entre les deux. C'est au fond ça qu'Aristote met devant. C'est ça qui est très fort. Alors là aussi, c'est un affrontement. Hein, parce que on ne peut pas remonter dans l'ordre de l'infini. Ce n'est pas une cause. Mais c'est un principe. Un principe. Vous voyez, c'est le principe d'intelligibilité sous-jacent au principe de causalité. Vous montrez que vous ne pouvez pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes, étant donné ce qu'est la cause.
Dans un ordre d'intelligibilité.
détermination. Je suis toujours relatif à un autre qui détermine. Donc, en soi, il n'y a pas de détermination. Donc, c'est supprimer la détermination. C'est pour ça que l'ordre des causes comme tel implique nécessairement qu'on ne peut pas remonter à l'infini. Mais je peux remonter à l'infini dans l'ordre... dans l'ordre des conditions sine qua non. Et pas dans la causalité. Dans l'ordre des conditions sine qua non, c'est possible. C'est le point de vue du père Aquinas. C'est le point de vue accidentel. Alors là, je peux remonter à l'infini. Alors, maintenant, allons-y. En effet, supposons qu'il n'y ait pas, qu'il n'en soit pas ainsi, et que la série devienne infinie. Donc la série va vers l'infini. Nous dirons que A est mu par B, B par gamma, gamma par delta, que toujours le contigu est mu par le contigu. Mais condition sine qua non. Puisque l'on suppose que le moteur me en étant mu, il faut que le mouvement du moteur et celui du mu se produisent simultanément. En effet, le moteur mu et le mu mu simultanément. On voit dès lors que le mouvement de A, de B, de gamma et des autres moteurs émus seront simultanés. Prenons donc le mouvement de chacun, soit eta, celui de A, zeta, celui de B, celui de bêta, eta, celui de theta, ceux de gamma et delta. S'il est bien vrai que toujours chaque membre de la série est mu par l'autre membre, cependant on peut considérer le mouvement de chacun comme un numériquement. En effet, tout mouvement va d'un terme à un autre et n'est pas infini quant aux extrémités. Je dis qu'un mouvement est un numériquement. On va entrer dans la question du mouvement. Je dis que le mouvement est un numériquement quand il se produit de ce qui est numériquement identique vers ce qui est numériquement identique dans un temps identique numériquement. Il s'amuse, Aristote, hein, quand il fait ça. Il s'amuse pour montrer que c'est idiot de dire qu'on va vers l'infini. On va vers une imbécilité. Alors il s'amuse le plus qu'il peut. Ça, c'est très grec. Montrer qu'on est devant un imbécile, quoi. Alors on met du foin autour. On l'entoure le plus qu'on peut. Jusqu'au moment où il est obligé de dire oh, oui, je comprends. Car le mouvement peut être identique génériquement, spécifiquement, numériquement. Tout va y passer, tout est possible. Génériquement, quand il est de la même catégorie, par exemple la substance ou qualité, spécifiquement, celui qui va du spécifiquement identique au spécifiquement identique, par exemple du blanc au noir ou du bon au mauvais, à supposer qu'il n'y ait pas la différence spécifique, numériquement, celui qui va de ce qui est un numériquement vers ce qui est un numériquement et dans un temps identique, par exemple, de ce blanc vers ce noir, ou de ce lieu-ci vers ce lieu-là, et dans ce temps. Si, en effet, c'était en un autre, le mouvement ne serait plus un numériquement, mais seulement spécifiquement. Mais on a disserté là-dessus antérieurement. C'est pas la peine de continuer, mais on comprend. Considérons donc le temps où A a achevé son mouvement et soit kappa ce temps. Le mouvement de A étant fini, le temps aussi sera fini. Mais puisque les moteurs et les mu sont en nombre infini, est-ce que vous remontez à l'infini? Donc l'expression de ce qui est déterminé. Puisque ce qui est toujours déterminé est toujours un numériquement. Et puisque les moteurs et les mus sont en nombre infini, le mouvement epsilon, zeta, eta, theta, qui est formé de tous, sera infini. Celui de A, celui de B et les autres peuvent être égaux. Ou être plus grands les uns que les autres, ainsi que les mouvements additionnés soient toujours égaux ou plus grands. De toute façon, le mouvement total est infini, car nous admettons le possible. Or, puisque le mouvement de A et ceux de chacun des autres sont simultanés, le mouvement total aura lieu dans le même temps que celui de A, de alpha. Mais celui de A a lieu dans un temps fini. Donc, un mouvement infini aurait lieu dans un temps fini. C'est impossible. Vous voyez, l'argumentation qu'il prend, c'est tout simplement, on prend l'aspect de la mesure du mouvement, qui est le temps. Le mouvement, s'il pouvait remonter à l'infini, ben, il peut être infini. Parce que par hypothèse, il est infini. Alors comment avoir un mouvement infini dans un temps fini? C'est impossible. Donc, le temps est garant de l'impossibilité d'un mouvement infini. C'est pas étonnant, puisque le temps est mesure. C'est propre d'une métaphysique critique. C'est pas la métaphysique, c'est la critique.